Un bâti moment avec Marjolaine Meynier-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.
Bonjour à vous qui nous écoutez, je suis ravie que vous veniez nous retrouver sur ce bâti moment avec moi sur Bâti Radio. Nous parlerons, comme d'habitude dans cette émission, de l'actualité du bâtiment, de la construction, de l'aménagement, mais également de développement durable et puis de protection de l'environnement. C'est cette émission dans laquelle, vous l'avez compris, nous pensons que les gens qui sauveront la planète sont en fait ceux qui travaillent aujourd'hui dans les filières du bâtiment. Aujourd'hui, pour cette seconde émission, je reçois Yamina Saeb. Bonjour Yamina.
Bonjour Marjolaine.
Yamina, vous êtes chercheure associée à l'Université de Münster et auteure principale du prochain rapport du GIEC sur l'atténuation du changement climatique. Merci d'être là.
Merci à vous pour l'invitation.
Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, on aime commencer par une petite anecdote, celle qui explique comment vous êtes tombée dans la marmite du bâtiment.
Alors c'est un peu à cause ou grâce à mes parents qui avaient pour habitude de commenter les bâtiments quand on se baladait. Donc ça allait de la beauté de la façade ou de la laideur de la façade parfois, aux fonctionnalités du bâtiment, à l'industrialisation du bâtiment. Et j'ai toujours entendu mes parents, par exemple, discuter de la ventilation naturelle versus ventilation mécanique.
Ils étaient dans le métier également ?
Non, pas du tout. Ils aimaient le bâti, ils aiment l'architecture en fait.
D'accord. Et c'est ça assez technique de parler de ventilation quand on aime le bâti.
Parce que nous, on habitait dans un immeuble qui était ventilé naturellement. C'est un immeuble du début du siècle. Et après, quand il y a eu les constructions qui se sont faites dans les banlieues où il y a de la ventilation en mécanique, et mes parents disaient que ça ne pouvait pas fonctionner de la même façon que la ventilation naturelle. Donc j'avais déjà appris qu'il valait mieux faire des solutions naturelles que des solutions plus tard. Bien sûr, j'ai appris que ça consommait de l'énergie. J'ai appris tous les effets, toutes les différences entre les deux types de solutions. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours entendu quand j'étais petite.
Et alors comment on passe de la petite fille qui se promène dans les rues et qui regarde l'architecture des bâtiments en regardant comment ils sont ventilés à devenir une des principales auteurs du rapport du GIEC ?
Alors d'abord, je suis ingénieure en bâtiment, donc je suis ingénieure en technologie du bâtiment. Donc j'ai pas choisi la voie des solutions naturelles. Et ensuite, j'ai travaillé sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment pendant ma thèse et à force de publication. Parce que pour être sélectionnée, pour être auteur du GIEC, il faut avoir des publications scientifiques et développer des solutions pour dans son secteur de spécialité et puis vous postulez et si vous êtes sélectionné vous devenez auteur du rapport du GIEC.
C'est une sacrée responsabilité de faire partie de ces auteurs-là. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Parce qu'on en a parlé un petit peu cet été, mais celui qui est paru cet été, ça n'est pas le rapport sur lequel vous avez travaillé, celui sur l'atténuation. Celui-là, il paraîtra un petit peu plus tard, exactement en mars.
En mars. Exact. En fait, c'est d'abord l'expérience internationale la plus intéressante que j'ai vécue jusqu'à présent. Donc, vous avez des scientifiques du monde entier, du Grand Nord, du Grand Sud, de toutes les régions du monde, qui travaillent sur différents sujets. Pas que le bâtiment. Donc le rapport du GIEC, en vérité, il y a trois rapports principaux. Celui qui est sorti cet été, il porte sur les sciences du climat. Donc eux, ils nous disent comment le climat va évoluer dans le futur. Si vous voulez, c'est ce rapport-là qui donne le là pour les autres rapports. Donc en coordonnée.
C'est celui qui fait peur, concrètement.
C'est l'une des réalités, donc ça dépendra du scénario que l'on aura choisi en tant que société. Donc à nous de, soit on choisit le scénario de continuer comme on a l'habitude, donc effectivement dans ce cas-là ça fait peur, ou alors on choisit le scénario où on réduit nos émissions et on travaille en même temps sur l'adaptation, et ce scénario-là ne fait pas peur du tout. Donc il y a deux lectures possibles du rapport du GIEC. Ensuite, il y a deux autres rapports qui viennent compléter celui-là, c'est le rapport sur l'adaptation qui est prévu pour février. Pareil, le rapport sur l'adaptation, donc on travaille un petit peu avec eux, mais ce n'est pas le rapport où j'interviens. Et ensuite, on a le troisième rapport qui est le rapport sur l'atténuation. Dans ce rapport sur l'atténuation, il y a un chapitre entier dédié au bâtiment. Et moi, je suis dans ce chapitre-là dédié au bâtiment.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu quelles sont les grandes lignes sur lesquelles vous avez travaillé dans ce chapitre bâtiment ?
Alors, on peut pas dévoiler ce qu'il y a dans une publication qui n'est pas encore sortie par
non,
respect.
Mais les thématiques sur lesquelles vous avez pu travailler.
Par respect aux auteurs, aux autres auteurs, parce que nous sommes justement en ce moment en train de finaliser le rapport. Mais ce que l'on regarde, on regarde les tendances des émissions, comment elles ont évolué dans le temps. Et puis, on regarde les différents scénarios. Alors, le GIEC n'est pas un centre de recherche, donc on développe pas nos propres scénarios. scénarios. On regarde les scénarios qui sont déjà publiés dans la littérature et puis on va choisir les scénarios les plus appropriés, mais aussi ceux pour lesquels il y a suffisamment de données pour pouvoir les interpréter. Et on regarde également les politiques mises en place et les solutions techniques ou technologiques mises en place. Alors, si un point important, quand on regarde dans le cadre, donc on ne va pas regarder la France en tant que pays, mais on regarde plutôt l'Union européenne ou plutôt l'Europe, en dehors de l'Union, donc il n'y a pas que l'Union dans l'Europe. Et si on regarde les émissions dans le bâtiment, ben on trouve que les émissions entre 90 et 2018 ont baissé à peu près de 60%. Et cette baisse est due pour 30% en partie pour les, grâce aux politiques d'efficacité énergétique, notamment la directive bâtiment, qui ensuite est transposée dans les lois nationales. Et puis 30%, les autres 30% sont liés à la décarbonation de la production d'énergie que l'on peut mettre au crédit de la directive renouvelable et de la politique européenne, les 3x20, etc. Après, malheureusement, lorsqu'on regarde dans le détail, on se rend compte qu'une partie de... On aurait pu avoir 90% d'émissions de réduction si et seulement si on avait intégré la sobriété énergétique. Et malheureusement, nous n'avons pas intégré la sobriété. Et au contraire, lorsqu'on regarde les éléments de sobriété, on s'aperçoit que pendant cette période-là, on a plutôt poussé pour des politiques d'urbanisation vers... qui ont engendré plus de bâtiments de logements individuels que de bâtiments collectifs. Et lorsque l'on fait ça, ben on augmente la surface du logement, et donc on augmente les besoins en matériaux, et donc du coup en émissions grises, en énergie grise, mais également on augmente les consommations d'énergie de chauffage, par exemple, parce que pour nous, ce qui nous pénalise beaucoup pour le moment, c'est le chauffage, mais ça va changer. Ça va devenir aussi la production de le refroidissement, en fait, à cause des changements climatiques. Et du coup, comme on a loupé cette partie-là, donc en fait, on a raté 30% d'émissions de réduction pendant une période qui a été très importante pour l'Europe, qui est une période où on construisait encore beaucoup. Parce que à l'avenir, en Europe, on construira de moins en moins. On construit déjà pas beaucoup, mais nous, on construira de moins en moins parce que nous avons suffisamment de surface bâtie et nous sommes une population vieillissante avec des taux de fertilité relativement bas.
Et pourtant, on nous dit sans arrêt qu'il n'y a pas assez de logements, que les gens n'arrivent pas à se loger, que du coup, il faut répondre à la demande de logements et donc construire plus de bâtiments.
Alors, les logements ne sont pas là où ils doivent être. Par exemple, toutes les lois qu'on a eues en France les 20 dernières années de défiscalisation grâce à la construction de logements un peu partout sur le territoire, ces logements-là ne sont pas desservis en transport en général, ils sont loin des bassins d'emploi, donc du coup, on a juste construit. On a construit pour construire. Ce qu'il faudrait qu'on change, c'est construire là où on a besoin et puis adapter les logements. Parce qu'avec la crise du Covid, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de bâtiments non résidentiels qui vont être libérés parce qu'on ne va plus travailler comme on travaillait avant. Donc, il va y avoir beaucoup de surfaces qui vont se libérer. Toutes ces surfaces-là devraient être adaptées aux besoins de la population de demain, qu'on commence à connaître aujourd'hui. Et donc, du coup, le taux de construction en France et en Europe sera certainement très, très bas.
Donc, si je résume les enjeux pour le secteur de bâtiment, il faut lutter contre le réchauffement climatique et la part énergétique carbone principalement, en pensant aux problématiques chauffage. Il faut réfléchir à l'adaptation des bâtiments au changement climatique, c'est-à-dire être capable de résister aux aléas climatiques comme on a pu les vivre cet été. C'est-à-dire penser d'ores et déjà à ce qu'on fait quand, par exemple, il y a une inondation qui n'était pas prévue sur le programme au démarrage. Il faut aussi penser à la réversibilité des bâtiments pour qu'ils puissent être utilisé dans le long terme. Il faut évidemment lutter contre l'artificialisation des sols. Ça fait beaucoup de choses pour un seul secteur. Comment est-ce qu'on aide ce secteur à se saisir de tous ces sujets en même temps?
Alors moi, je dirais que c'est une opportunité unique pour ce secteur qui était un secteur plutôt en état de mort cérébrale.
C'est pas sympa pour le secteur, ça, Yamina.
Parce qu'en fait, il faut innover. Il faut innover d'une autre... Il faut innover alors qu'on a Il y a des bâtiments qui sont là, il faut innover dans l'existant. Donc ça, c'est encore, le défi est encore plus grand que le défi qu'a pu connaître l'Europe et la France après la Seconde Guerre, où il a fallu construire très très vite. Et c'est à ce moment-là qu'on a innové d'ailleurs. Donc la seule période d'innovation réelle dans le secteur, c'est la période de l'après-guerre, quand on a dû construire des millions de mètres carrés pour héberger les citoyens européens et français à la sortie de la guerre, qui étaient très pauvres. C'était pas juste la sortie de la guerre, c'était aussi parce que les gens étaient pauvres. Et donc du coup, là, on doit innover, mais sauf que on a un héritage sur lequel on doit innover. Moi, je dirais que c'est plutôt une opportunité pour le secteur et en particulier pour les jeunes et pour les femmes, parce que c'est un secteur qui n'attire pas les jeunes, c'est un secteur qui n'attire pas les femmes, parce que c'est un secteur, c'est des métiers très pénibles qui ont été jusqu'à présent très pénibles, mais ça devrait changer avec l'industrialisation, la robotisation qui commence à se mettre en marche. Et puis il y a tous ces aspects-là qui en général intéresse les femmes et les jeunes, les questions de développement durable, les questions de construire pour différentes générations en même temps ou adapter les bâtiments pour différentes générations. Donc moi, je dirais plutôt que ce sont des défis juste géniaux. J'aurais aimé avoir 20 ans aujourd'hui.
C'est bien, c'est enthousiasmant. Merci Yamina. Alors, on va passer à votre question d'actualité, puisque vous avez travaillé récemment sur la manière dont le logement et la mobilité se combinent pour créer le phénomène de précarité énergétique. Vous l'avez d'ailleurs un petit peu dit, on pense peut-être pas assez à la question de l'aménagement du territoire quand on pense la construction des bâtiments. Et donc ça a posé des problèmes, notamment, en fait, on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes. Expliquez-nous votre rapport.
En fait, justement, les politiques de logement ont été pendant longtemps détachées des politiques de l'aménagement du territoire. En France, on aurait eu, jusqu'à il y a 20, 30 ans, je pense, on avait eu un ministère de l'aménagement du territoire ou un secrétariat d'État qui a complètement disparu des organigrammes des différents quinquennats. Et ça, je pense, aujourd'hui, on pense que c'était une erreur monumentale. Et on a pu comprendre ça. Enfin, la crise des Gilets jaunes a été une gifle pour tout le monde. Parce que la crise des Gilets jaunes, les Gilets jaunes, ce ne sont pas des gens qui sont sans emploi, la plupart d'entre eux, ils ont un emploi. C'est des gens à qui on a promis du rêve, du pavillon pas loin de la ville, et avec des supermarchés autour, toutes les activités autour. Mais en fait, toutes ces activités-là, l'accès aux activités de base demande l'acquisition d'une voiture. Et donc du coup, non seulement quand on est en pavillon, la facture énergétique d'un pavillon est beaucoup plus élevée que celle d'un appartement, parce que toutes les façades du pavillon sont exposées. Donc du coup, les besoins en froid ou en chaud sont des besoins plus élevés que dans le cadre que si on est en appartement ou si on est en habitat groupé, on va dire. Et ensuite de ça, en plus de ça, donc toutes les activités d'une famille. Imaginez un couple avec deux enfants. Quelle que soit l'activité que le couple et les deux enfants veulent entreprendre, ils ont besoin de prendre la voiture. Alors du coup, leur facture énergétique totale, vous rajoutez à la facture pour le chauffage, est très élevée.
Et en fait, quand on achète une maison, il faudrait quelque part qu'on puisse simuler dès l'achat de la maison, exact, les allers-retours en fait à l'école, les allers-retours au supermarché, les allers-retours au travail. Et tout ça, c'est pas pris en compte aujourd'hui par les ménages ?
Pas du tout. Pas du tout. Donc, si vous allez demander un prêt bancaire, par exemple, pour acheter un logement, ils vont prendre en compte vos revenus et le coût de l'appartement ou du pavillon. Et les remboursements vont être calculés en fonction uniquement du coût du logement. Et le coût de la mobilité n'est pas du tout pris en compte. Et c'est ça, il faudrait réveiller en fait les politiques là-dessus et aussi les citoyens, pour que les citoyens, quand ils le peuvent, parce que les citoyens qui sont allés en banlieue éloignée ne sont pas des citoyens qui avaient vraiment le choix, parce qu'aujourd'hui il est très difficile de se loger là où les transports en commun sont disponibles, là où il y a les grands centres urbains, là où toutes les activités sont disponibles à pied ou à vélo. Et du coup, donc ça fait partie des politiques publiques à revoir pour le prochain quinquennat, justement, pour prendre en compte les deux paramètres, et peut-être pour le prochain quinquennat reprévoir un ministère de l'aménagement du territoire et du logement et de la mobilité ensemble, ou un secrétariat d'État qui dépendrait du ministère de la Transition, qui prendrait en compte ces trois paramètres. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la précarité énergétique liée au logement, c'est une précarité qui devrait pas du tout exister dans les pays du Nord. Enfin, c'est même une honte que nous ayons ça dans nos pays. C'est contraire à l'objectif numéro 1 des développements durables qui dit que normalement on doit mettre fin à tout type de précarité. Alors que nous, en fait, les politiques que nous avons, ce sont des politiques d'atténuation et pas du tout des politiques d'éradication. Alors, quand vous rajoutez à cela la précarité liée à la mobilité, qui est une réalité de plus en plus forte dans nos pays, on met une bonne partie de la population en dehors de la transition. Donc, on ne pourra pas réussir la transition sans l'ensemble des citoyens.
D'accord. Donc, une vision très participative du sujet pour vous.
Voilà.
Très bien. Alors justement, pour les jeunes qui veulent participer à ces sujets, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces jeunes qui ont envie aujourd'hui de s'engager dans les filières du BTP ou de l'aménagement ou du bâtiment ou de la rénovation énergétique? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire?
Je leur dirais que ils ont une opportunité unique, comme je vous disais au début, si seulement je pouvais avoir 20 ans et retourner à l'université, enfin aller à l'université pour me spécialiser dans les métiers d'aujourd'hui du bâtiment ou les métiers de demain du bâtiment et de l'aménagement du territoire, parce que le bâtiment de demain ne va pas être comme celui que nous on a connu, donc la formation de ces jeunes ne pourra pas ressembler, enfin j'espère qu'elle ne va pas ressembler à celle que j'ai eue moi. Moi j'ai eu une formation très technologique d'abord, puis après très économique et l'aspect sociologique, sociétale, etc. J'ai dû l'apprendre sur le terrain. J'espère que les formations que l'on met en place aujourd'hui prennent en compte une approche plus holistique en fait du bâtiment. Et les jeunes ont un boulevard devant eux pour créer, pour innover. Vraiment, le bâtiment ne devrait plus être vu comme ce qu'on avait l'habitude de voir dans les anciens films avec un casque du bâtiment, même si moi j'aimais bien porter le casque, hein, j'aime toujours porter le casque, un casque et un bleu de travail. C'est pas des métiers qu'on dénigre en fait, ce sont des métiers qui ont de l'avenir parce que c'est la transformation et comme disait un ancien député français, quand le bâtiment va, tout va.
On va rester sur cette note-là. Merci beaucoup Yamina Saeb, merci pour tous vos éclairages. Retour à vous chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous serez au rendez-vous pour notre prochain Bâti Moment. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire vos commentaires et réactions sur le site de Bâti Radio. La prochaine fois, je recevrai fort probablement Annelise Deloron-Rocard, qui est coordonnatrice interministérielle au ministère de la Transition écologique et solidaire et au ministère de la Cohésion des territoires, donc on décloisonne Yamina, sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments. Ce sera l'occasion de refaire un peu le point avec elle sur tout ce qui s'est passé depuis 4 ans. Je ne suis pas sûre que les 15 minutes de l'émission suffiront. À très bientôt.
Un bâti-moment avec Marjolaine Meignet-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.